Alors, cette troisième conférence nous est présentée par le père Édouard R., luxembourgeois. Il est jésuite, docteur en théologie et maître en sciences économiques. Il est professeur aux facultés de Namur et enseigne la morale sociale et la théologie fondamentale à la faculté de la Compagnie de Jésus à Bruxelles, à l'IET. Il a publié plusieurs livres et articles en doctrine sociale sur la paix, la violence aussi. Et donc nous l'écoutons volontiers maintenant sur l'écologie humaine. Merci.
Écoutez, je suis extrêmement heureux d'être ici en voyant les bâtiments et votre climat. Je serais prêt à rester une semaine, mais voilà. On va arranger ça une autre fois. Hein. Et alors, je suis aussi un peu impressionné de parler après Waltraud, que nous avons passé ensemble quelques années hein, à Bruxelles, avec beaucoup de plaisir. Et maintenant, je vois ce bel auditoire, et donc je suis fort impressionné. Mais enfin, il faut dépasser ses peurs et ses émotions. Voilà, donc, un peu selon la loi naturelle, je n'ai pas choisi mon sujet, c'est que la nature a, d'une certaine manière, proposé le sujet. Donc, si je me souviens bien, c'est donc loi naturelle ou écologie humaine et loi naturelle, le lien entre les deux. Bien, je suis heureux d'avoir eu ce sujet dans le cadre, je crois, de loi naturelle et société. Donc, je vais traiter mon sujet dans la perspective sociale et sociale actuelle. Et donc, je vais d'abord essayer, par une premier paragraphe ou première partie, de nous sensibiliser à ce que nous vivons maintenant. Et à partir de là, essayer, de manière à la fois favorable, mais aussi critique, de voir dans quelle mesure les deux concepts d'écologie humaine et de loi naturelle peuvent ou ne peuvent pas aider, justement, dans le monde dans lequel nous sommes et qui pose des problèmes, semble-t-il, très fondamentaux, peuvent nous aider à avancer, on pourrait dire, dans la ligne du respect de l'homme, dans la ligne de ce que la loi naturelle veut faire, le bien commun et tout ce que nous savons. Et après cela, je crois que ça va prendre un certain temps. Et je voudrais terminer, parce que c'est quand même une partie plus morale, je voudrais terminer par quelques propositions, je n'ose jamais dire concrètes, mais disons plus pratiques, quoi, et sur lesquelles on pourra discuter. Voilà. Alors, je vais commencer d'abord par la situation présente. Moi, je crois qu'elle est assez unique. Je dirais qu'elle est provocante pour nous chrétiens, mais je trouve que ça vaut la peine, quoi. Voilà. Et de quoi s'agit-il? Mais j'ai été sensible de lire dernièrement le petit livre que je vous recommande de Michel Serres. Pas le temps des cerises, mais le temps des crises. Voilà, donc, c'est un livre attachant, d'abord parce qu'il est court, et deuxièmement, il est suggestif. Qu'est-ce qu'il dit là? Mais c'est assez intéressant. Il dit les crises, mais qui sont quand même sérieuses, crises économiques, financières, crises écologiques, crises sociales, tout ça. Il dit, c'est vrai, ce sont des sortes de vaguelettes sur la mer. Mais au fond, c'est beaucoup plus important et j'estime que, tenez-vous bien, l'époque que nous vivons est une époque qui doit se comparer à ce qu'il appellerait, en gros, le néolithique, il y a 10 000 ans, quand l'humanité s'est, en gros, sédentarisée. Et il dit, le bouleversement, notamment technologique, je ne vais pas faire des images là-dessus, vous connaissez mieux que moi, mais enfin, notamment à travers l'informatique, mais toutes ces, je dirais, les choses qui en sortent, avec notamment, nous connaissons dans la médecine, et l'Église qui se préoccupe de la biotechnique, etc. Il dit, donc voilà, c'est un monde en mutation. Et il ne faut même pas raisonner en termes de crise, parce que pour une crise, on dit toujours, ça va mal, et puis ça remonte et ça revient au même. Mais il dit non, c'est pas vrai. Et donc le défi est gigantesque dans ce sens-ci, c'est qu'il dit que nous devons essayer de nous préparer et de répondre à cette nouveauté, à cette mutation qui n'est pas seulement une crise. Donc, je trouve que c'est un beau défi et d'une certaine manière, ma question serait, est-ce que la loi naturelle et de l'autre côté comme polarité, je les ai vus comme cela, loi naturelle, c'est la longue histoire, l'écologie humaine, c'est un concept très récent, mais tous les deux veulent un peu faire la même chose, c'est-à-dire respecter l'homme, l'humanité dans son environnement nouveau, notamment celui de la société extrêmement technologisée. Et comment pouvons-nous donner un message à cela? Surtout, me semble-t-il, donc je ne vais pas commencer à trop m'étendre, mais nous sommes dans cette période de la mondialisation. Je ne vais pas m'attarder sur la question de l'idéologie néolibérale qui a dirigé tout cela, mais c'est plutôt pour nous rendre compte des phénomènes qui se passent. Je laisse tomber toutes les descriptions, elles sont suffisantes, si vous voulez, je peux en parler après, mais ce qui me frappe, c'est ceci, c'est cette expérience fondamentale de l'humanité. L'humanité, pas seulement chaque individu, mais l'humanité fait l'expérience de ses limites, de ses bornes, à travers notamment la crise ou les crises écologiques. Nous n'avons qu'une terre. Et donc, nous sommes, si vous voulez, nous nous heurtons à nos limites, comme nous nous heurtons à nos limites corporelles, à nos maladies, ensemble. Et comment est-ce que nous allons gérer cela? Voilà, parce qu'une loi naturelle, par exemple, eh bien, elle n'intervient pas seulement en moment facile, mais c'est aussi un moment, disons, de crise. Et justement, c'est peut-être la question philosophique fondamentale, heureusement la technique résiste, ce problème de notre finitude. Fini, ça veut dire nous sommes des êtres finis, notamment à travers notre corps, nous le sentons. Mais maintenant, c'est l'humanité elle-même qui expérimente sa finitude et en partie à cause d'elle-même. C'est qu'elle a tellement eu un rapport dominant par rapport à son environnement que l'environnement maintenant, je dirais, prend sa revanche. C'est une sorte d'anthropologisation mauvaise, mais nous sommes maintenant menacés parce que l'environnement est limité. Il n'y a pas assez de ressources de ceci, etc. Regardons simplement le formidable problème que vous avez maintenant en France, mais qu'en Allemagne on a encore, etc. C'est la question de la transition énergétique. Si vous voulez enlever quelques heures de sommeil à M. Hollande, eh bien, parlez-lui le soir à 7 heures de la transition écologique. Hein. Voilà. Donc, c'est des problèmes énormes avec des possibilités de tension et de conflit. La bagarre autour des ressources, c'est quelque chose de très grave. Notamment, par exemple, l'Ukraine maintenant, c'est aussi cela. La question de la Chine qui est en train d'augmenter de 12% son budget de défense. Ce n'est pas simplement pour payer des officiers, hein. C'est aussi pour surveiller toutes les voies par lesquelles ils peuvent assurer leurs ressources. Donc je ne vais pas continuer, mais c'est marquer cette expérience collective de l'humanité d'expérimenter, c'est métaphysique. Le monde n'est pas infini, nous sommes finis comme humanité. Et comment allons-nous ensemble gérer cela? Hein? c'est toute la question aussi de migration, etc., etc. La pollution, nous vivons, Thierry et moi, dans une communauté bienheureuse, naturellement. Et là, nous avons un jeune Chinois. Et il nous raconte qu'il vit dans une des villes les plus polluées de Chine. Mais c'est un peu le smog permanent. Il y a la mortalité de la pollution est énorme. Les gens qui sont malades, les enfants, etc. Donc vous voyez, donc je veux simplement vous dire, cette nouveauté de l'époque, c'est aussi cette question de l'expérimentation de l'humanité comme se heurtant à ses limites. Et c'est, je dirais, du point de vue chrétien, quelque chose d'extraordinaire, parce que l'homme doit faire quelque part l'expérience de ses limites et de les accepter. Parce que les limites, ça peut être aussi la possibilité d'aller vers l'autre, de partager, de parler ensemble. Chacun n'est pas sur une île, mais c'est aussi naturellement le grand danger de menaces, de domination, etc. Donc, c'est un, moi je dirais, c'est un formidable défi. Et je crois que l'Église a beaucoup à dire, puisque pourrons-nous trouver les ressources? Et, en somme, en gros, c'est la force ou la morale et la spiritualité. C'est la loi naturelle ou la bagarre, pourrait-on dire. Et donc, si ce n'est pas un sursaut de spiritualité et de morale, nous aurons de grandes chances d'avoir des terribles conflits. Voilà. Donc, c'est ça l'enjeu. Et voyez-vous, là, on n'en a pas encore beaucoup parlé de ça, mais la loi naturelle a quand même, d'après saint Thomas, je suis très fragile dans saint Thomas, mais enfin, j'essaie de dire des choses sûres. Mais donc, il dit la loi naturelle est au service social du bien commun. Hein, de bien commun, un truc difficile, mais enfin, on comprend, pour que tout le monde aille bien, disons ça. Mais pour le moment, nous devons dire, avec saint Thomas, et l'Église le dit souvent, le bien commun est devenu mondial. Quand nous pensons au bien commun, en fonction de la loi naturelle, nous devons nous demander l'humanité, et cette humanité qui touche ses limites. Voilà ce que la loi naturelle, à mon avis, aurait maintenant comme devoir d'affronter. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que l'écologie humaine a le même objectif, mais elle vient d'ailleurs. La loi naturelle, je dirais, les avantages de la sagesse, mais parfois aussi les désavantages, la durée. L'écologie humaine, c'est assez nouveau, et il a d'autres problèmes, je vais essayer de le montrer. Voilà. Alors, retenons encore ceci, c'est que, comme expérience éthique qui s'adresse donc à ces lois nouvelles, il y a ceci de très important, c'est que l'humanité fait l'expérience non pas seulement de ses limites, mais fait l'expérience aussi d'une extension formidable de sa responsabilité. Hein? J'ai dit le bien commun, mais je veux dire, nous expérimentons maintenant que l'environnement au sens étroit et large fait partie des responsabilités de l'humanité. Et c'est un très gros problème. Nous ne pouvons pas aller tout le temps déverser nos détritus et nos affaires en Afrique. Et nous devons payer pour, je dirais, la propreté. Et en gros, rendons-nous compte que désormais, l'humanité doit, au niveau de sa gouvernance, de son éthique qui se veut maintenant universelle, réfléchir les problèmes au niveau mondial et inclut l'environnement. Ça, c'est nouveau. Avant, l'environnement, ben, c'était le petit truc autour de moi, et si ça n'allait pas, on allait ailleurs, etc. Mais nous sommes maintenant, si vous voulez, il n'y a qu'une terre. Et elle va encore augmenter de membres. C'est, parfois, ça peut amener à ce qu'on ne dort pas trop bien. Mais voilà. Alors, je vais vous sentir ce que je veux faire avec les deux concepts, écologie humaine et loi naturelle. Ce sont deux concepts surtout écologie humaine, peut se présenter comme une étude scientifique, descriptive. Mais moi, je le prends surtout ici comme une loi normative. Il faut une écologie qui respecte l'homme. Et en retour, l'homme désormais ne peut que, à cause des limites, etc., respecter l'environnement. Vous sentez, donc c'est ça l'enjeu des deux concepts, hein, et je voudrais maintenant les regarder de près pour montrer quelles sont les forces et les faiblesses de chacun et quels défis nous restent posés et qui sont... Il y a encore du boulot, quoi, disons, voilà. Ne me demandez pas de vous dessiner les origines du concept de l'écologie humaine parce que c'est assez filandreux. Ça remonte partout et c'est une faiblesse, mais aussi une richesse du concept, c'est que tout le monde y met un petit peu ce qu'il veut, et notamment les papes. Je veux dire qu'ils ont pris, comme pour beaucoup de choses, le train en cours de route, et alors ils font aussi leurs petits morceaux en disant « moi je pense ceci », etc. Mais ça ne fait pas toujours l'unanimité, figurez-vous. Je vais vous le montrer. Alors, de manière très simple, parce qu'il y a... on jargonne déjà beaucoup dans ce truc de l'écologie humaine, mais je dirais, si on veut commencer simplement, on peut dire que l'écologie humaine, c'est toujours cette polarité entre votre environnement, qu'on appelle aussi le biotope, et de l'autre côté, soit le monde des vivants, ou alors, justement, ici, c'est l'homme comme tel dans ses relations réciproques, interactions. Donc, c'est facile. Il y a l'environnement, mais naturellement, petite question subsidiaire, qu'est-ce que c'est que l'environnement? Qu'est-ce qu'on met dedans? Et l'autre, qu'est-ce que c'est l'homme? Hein? Voilà. Loi naturelle va essayer de répondre, mais généralement, comme toujours, les moralistes répondent à moitié. Hein? Donc, faut faire attention. Alors, ce que je trouve assez bon, c'est ceci. La question de l'écologie humaine, à mon avis, quand vous lisez la littérature, vous trouvez, c'est très simplifié, hein, mais quand même, écologie humaine, il y a des gens qui en parlent en termes de biophysique. Hein. C'est l'homme comme... partie du monde physico-chimique, hein, par lequel il a quand même grandi, etc. Et on regarde comment l'homme joue dans cet univers-là comme un vivant parmi d'autres. Et on va décrire que l'homme lui-même est en somme un écosystème mini. D'ailleurs, dit-on, il y a des milliards de petites bestioles qu'il est avec lui, donc il n'est pas seul, hein, il y a tout le temps, vous entretenez un écosystème vous seul. Mais quand même, il s'agit maintenant, comme je vous ai dit, cette humanité de gérer ce rapport et de le gérer de telle manière que l'homme soit respecté. L'homme, disons déjà, on a appris maintenant que la loi naturelle dit l'homme en tant que personne dans sa dignité, etc. Eh bien, ça c'est un premier niveau, mais il est assez contesté. Naturellement, là-dedans, vous avez la deep ecology, où on dit l'homme n'est rien d'autre qu'une bête, etc. Il doit se coucher, et voilà, il fait partie du monde, et il doit régresser dans le monde des autres espèces. Il y a des choses intéressantes, hein, parce qu'on a joué le dominateur, etc. Maintenant, on dit l'homme devrait se calmer un petit peu. Mais aller jusqu'à dire que nous ne sommes rien d'autre qu'une autre espèce, personnellement, j'ai quelques problèmes. Mais donc, c'est un deuxième ligne vient alors dans certains écrits sur l'écologie humaine. Vous voyez aussi apparaître qu'on dit, ah oui, mais attention, l'homme, dans son lien avec l'environnement, son environnement, et c'est une chose très importante, n'est pas seulement l'environnement de la nature, entre guillemets, sans l'homme. Et dites-moi un petit peu, je suis venu ce matin en train, magnifique, hein, votre pays, hein, magnifique. Et ça va vite, mais on regarde. Mais on ne voit presque pas la nature, au sens strict du mot. On voit un environnement qui a été partout travaillé par l'homme. Vous voyez, ce n'est plus, nous touchons presque plus la nature sans l'homme. Ah, C'est quand même quelque chose de nouveau. Et naturellement, nous avons fait des dégâts gigantesques. Mais d'autres disent, mais ce n'est pas le plus important. C'est que, en dehors des villes dans lesquelles on vit maintenant et tout ça, d'accord, il y a maintenant, tous nous vivons dans un environnement que les gens appellent culturel. Ça, c'est l'homme sans son environnement culturel n'existe pas. Par exemple, le langage. Par exemple, une organisation sociale et économique. Par exemple, un système de valeurs. Par exemple, la loi naturelle. Enfin, quelqu'un dit, écoutez, l'homme est par son corps, c'est vrai, enraciné dans le monde physico-chimique. Il est corps, oui. Mais, comme dit saint Paul, l'homme est aussi le temple, le corps est le temple de l'esprit. Et donc, nous sommes, et c'est ça le gros problème, c'est le corps, l'esprit en une unité. Mais donc, on dira aussi, l'environnement humain, quand je parle de l'environnement humain, c'est aussi l'environnement, je fais des guillemets, culturel, économique, politique, social, valeur, tout ça ensemble. Ça, c'est aussi mon environnement. Et certains disent, c'est le plus important. Parce que là naissent les idéologies, là naissent les systèmes économiques néolibéraux, ou je ne sais pas quoi. Et donc, pour nous, quand nous nous disons, nous sommes face à l'environnement, c'est celui-là aussi. Je pourrais continuer. Troisièmement, les papes, comme je vous dis, prennent le train quand il est en route. Jean-Paul II, Benoît XVI, et même François lui-même s'y est mis. Donc, il parle aussi de l'écologie humaine. Je vous lis un texte, et alors vous percevrez comment le pape met ses propres petites pensées dans l'écologie humaine, parce que c'est un troisième niveau. Quand l'écologie humaine est respectée dans la société, l'écologie proprement dite en tire aussi avantage. Donc, il veut dire l'écologie au sens nature, sans l'homme. Mais justement, si l'écologie, c'est-à-dire aussi la culture et tout ça fonctionne bien, eh bien on respecte aussi davantage le niveau, entre guillemets, nature. Nature, vous voyez comment c'est un mot dangereux. Nature, c'est penser sans l'homme, ici. Au sein du, bien justement, de l'écologie humaine, au sein du louable souci écologique général. Quand l'écologie humaine, pour le moment on a parlé de deux niveaux, est respectée dans la société, l'écologie proprement dite en tire aussi avantage. Pour préserver la nature, vous voyez le mot ici, ce n'est pas dans le sens de la loi naturelle. Pour préserver la nature, il n'est pas suffisant d'intervenir au moyen d'incitations ou de mesures économiques dissuasives. Une éducation appropriée n'y suffit pas non plus. Ce sont là des outils importants, mais le point déterminant est la tenue morale de la société dans son ensemble. Voilà le pape qui introduit ses propres préoccupations. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, si le droit à la vie et à la mort naturelle, encore une autre manière de dire naturelle, n'est pas respecté, si la conception, la gestation et la naissance de l'homme sont rendues artificielles, nature, artifice, si des embryons humains sont sacrifiés pour la recherche et la conscience commune, finit par perdre le concept d'écologie humaine. Voilà que le pape a introduit dans le concept son troisième étage, et avec lui celui d'écologie environnementale. Exiger des nouvelles générations le respect du milieu nature devient une contradiction quand l'éducation et les lois ne les aident pas à se respecter elles-mêmes, les hommes entre eux, et notamment au niveau de la bioéthique. Le livre de la nature, encore le mot nature ici, vous voyez qu'on joue un peu sur plusieurs niveaux, est unique et indivisible, qu'il s'agisse de l'environnement comme de la vie, de la sexualité, du mariage, de la famille, des relations sociales, en un mot du développement humain intégral. À mon avis, pour l'Église, en gros, l'écologie humaine est analogue pour elle à ce qu'elle appelle le développement intégral. Vous voyez, donc il faut, comme disent les papes, il faut développer tout l'homme, toujours tout l'homme, c'est-à-dire aussi la dimension spirituelle, théologique, et tous les hommes, intégralité et universalité. Et on mettrait derrière maintenant durabilité. Tous les hommes, tout l'homme pour toujours. Enfin, toujours, soyons prudents. Les devoirs que nous avons vis-à-vis de l'environnement sont liés aux devoirs que nous avons envers les personnes considérées en elles-mêmes. Les personnes en elles-mêmes, ça c'est un vocabulaire théologique. Théologique, ça veut dire les personnes, finalement, pourquoi sommes-nous des personnes dignes ? Pour nous, le fondement vrai, et on trouvera difficilement unanimité ailleurs, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour chacune et chacun d'entre nous par amour, et surtout les plus petits. Voilà le fondement de la dignité. Et il veut avec chacune, chacun, mais aussi l'humanité entière, comme avec le peuple juif, faire une alliance d'amour. C'est pour ça que nous sommes libres. On ne force pas à aimer. Mais il dit, je veux faire une histoire avec toi. Toi, 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 toi. Et c'est pour ça que chaque personne est digne, puisqu'elle est libre de s'engager dans un pacte d'amour. C'est ça ce que le pape défend ici. Il dit, écologie humaine, bien, c'est sûr, toute la nature au sens non humaine, oui, la culture, société humaine, mais troisièmement, si vous voulez, le monde des personnes telles qu'elles sont aimées, des êtres spirituels. Hein, et alors, tout le vocabulaire avec la loi naturelle, c'est nature, mais nature, on le sait maintenant, ne peut se penser, en tout cas actuellement, sans la personne. La personne n'est pas pensable sans la liberté. Et les personnes sont toujours en communion, mais avec Dieu et avec les hommes. Ça, c'est spécifique au christianisme. Il n'y a qu'un commandement, c'est aimer Dieu et aimer les hommes. Et vous ne pouvez pas séparer les deux. Ça, c'est ce que l'Église veut introduire. Trois niveaux, pas seulement deux. Mais la difficulté, c'est que, évidemment, il n'y a pas d'autorité. Hein. On a demandé l'autorité qui peut, d'une certaine manière, décréter, c'est comme ça. Tout le monde, il y a les gens, les matérialistes, c'est une majorité maintenant. Les neurobiologistes et les neurosciences et tout ça, c'est assez fortement matérialiste. Hein. On explique le fonctionnement de tout, y compris de la prière, simplement par un échange électrique dans le cerveau. Il y a un ami à moi qui a passé un truc, je ne sais plus lequel, un truc du cerveau. Et l'infirmière lui a dit, vous priez. Et il a dû dire oui, il disait son chapelet. Ah, mais voilà, impressionnant. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire, ça peut aller très loin. Hein. Très, très loin. Et enfin, voilà, vous voyez un peu le genre. Hein. Mais alors, donc, mais nous sommes, dans, et je crois que ça c'est une chose assez nouvelle pour nous, c'est que, comme chrétiens, nous étions un peu paresseusement habitués à vivre dans une société, une culture, en gros, chrétienne, pendant des siècles et des siècles. Mais je crains, ben aussi c'est normal, l'humanité devant laquelle nous sommes, c'est-à-dire pas seulement la petite Europe, pas la France fille aînée de l'Église, et encore, hein, mais voilà, maintenant c'est le monde. Et il y a pluralité. Et donc nous sommes dans une situation où nous ne sommes plus ceux qui sont tranquilles parce que le monde tourne comme eux le pensent. Ah ben non. Et donc le débat que nous faisons ici, loi naturelle et tout ça, eh bien c'est un débat qui n'est pas seulement théorique mais très pratique. Quelle loi vote-t-on ? Figurez-vous que c'est par les majorités. Et que dans beaucoup de pays, y compris peut-être celui-ci, nous, les chrétiens, ne sommes pas toujours majoritaires. Et c'est ça ce qui est en jeu. Et voilà donc, je crois que c'est une grande question pour nous maintenant. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais je voulais simplement rendre attentif. Combien de temps encore ? 15 minutes, oh là là. Enfin, j'avais encore pour des semaines, mais enfin, j'arrête, hein. Je tourne les pages. Mais disons, donc trois niveaux et le monde est pluraliste. Et je dirais, peut-être, il y a des questions philosophiques et théologiques de base ici. Par exemple, cette question de philosophie très profonde que monsieur, le grand philosophe dans une petite université, c'était monsieur Ladrière, c'est Sartre qui a dit cela. Il avait connu monsieur Ladrière, qui est mort maintenant, un philosophe. Il a dit, c'est un grand philosophe dans une petite université, c'était l'université catholique de Louvain. Donc, voilà. Mais donc, c'est la question, le niveau 1, biophysique, biophysico-chimique, hein, qui est vrai, duquel nous sommes très solidaires, on ne mange pas sans ça, hein. Eh bien, ce monde-là ne dirige plus le niveau 2. Le niveau 2, c'est la culture. Mais certains veulent réfléchir le niveau 2 comme le niveau 1. C'est-à-dire, tout est matérialiste et j'explique tout, finalement, y compris la culture, la prière et tout, par le niveau physico-chimique. Eh bien, non. Et alors, on peut parler, comme monsieur Lamy, on peut parler d'enveloppe écologique. Il y a l'enveloppe que nous ne voyons plus beaucoup, mais de la nature stricte, quoi. Peut-être sur les océans, on voit ça encore, mais... Et alors, il y a maintenant l'enveloppe humaine, proprement dit, hein, naturelle, humain et peut-être surnaturel. Je retrouve là des catégories que Frédéric aime bien parce que le père Fessard résonne comme ça pour l'histoire. Donc première chose, c'est ça. Deuxième chose, je veux dire aussi ceci, si vous réfléchissez à cette question de la loi naturelle du monde actuel et où, qu'est-ce qui est en jeu finalement. Moi je pense personnellement que nous devrions passer beaucoup plus de temps ici et chez nous sur la réflexion, le corps animé par l'esprit, la corporéité. Ça, c'est, à mon avis, une affaire formidable pour nous. Pourquoi ? Le corps, c'est naturellement notre corps propre. Mais Jésus parle aussi du corps eucharistique. Il parle du corps, enfin, lui pas, mais on parle du corps mystique. Mais figurez-vous, très important, il parle aussi de la résurrection des corps. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Et un impact écologique et éthique extraordinaire. Pourquoi ? Parce que si les corps sont destinés à ressusciter, pas à s'enfouir comme dans l'hindouisme, pas aller se mettre dans le tombeau et puis ça devient, je ne sais pas quoi, du fumier, non. Nous croyons dans la résurrection des corps. Et c'est magnifique parce que ça respecte notre humanité. Quand même, si quelqu'un a donné sa vie au travail pour les autres, il s'est fatigué, il est devenu malade, et tout ça ne ferait pas partie de sa destinée. C'est comme ça qu'il s'est relié aux autres. L'amour entre l'homme et la femme, qui est un sacrement, c'est quand même l'amour aussi corporel. Et donc, ce que je veux dire, c'est ceci. Le fait qu'il y a résurrection des corps, ça c'est un message formidable pour les relations sociales, pour l'écologie. Parce que moi je pense, et je ne crois pas que le pape va me crosser, mais quand on lit Romains 8, on voit que le monde, comme dit toute la création, est en train de gémir. C'est un magnifique passage. Eh bien, saint Paul affirme que l'environnement, le bas niveau, naturel, physique, mais dont nous sommes solidaires, notre corps est un microcosme du grand cosmos, est destiné à sa manière de participer à la vie éternelle, dans le sens où, sans l'environnement, nos corps n'existent pas. Et donc, je pense que toute la création, je suis un peu taillardien, c'est pas pour rien, il est jésuite, mais donc, je crois que tout le cosmos, à sa manière, est destiné à être dans la vie éternelle. Un beau paysage, une intuition mystique que j'ai eue, mais enfin, sa valeur définitive. Et donc, par là, éthiquement, nous devons traiter le corps des autres, la corporéité, comme des réalités qui vont durer. Et quand nous travaillons en économie, quand nous préparons un repas et tout ça, c'est en quelque sorte que nous transformons le mort, le corps de l'univers, nous le faisons en quelque sorte transparent à l'amour. Une maman qui prépare un repas, c'est qu'elle rend le monde, le cosmos, elle le rend transparent à son amour. Elle fait du bien, elle se livre aux autres à travers son corps. Écoutez, nous ne sommes pas loin de l'Eucharistie. Ceci est mon corps. Qu'est-ce que c'est ? Le pain. Et le pain, c'est quoi ? C'est le symbole de la vie, mais aussi du travail de l'homme. Et Jésus dit, de tout cela, je désire faire mon corps. Et donc, votre travail, tout ce que vous faites, eh bien, c'est destiné et même ça prépare le corps éternel. Vous travaillez, le sens d'un entrepreneur, d'un travailleur, tous ces gens qui sont morts comme des esclaves et tout ça, eh bien non, ils ont travaillé pour que l'humanité vive. Et donc l'écologie, hein, l'écologie humaine, c'est ça aussi. Et je trouve que la théologie devrait le dire davantage. Le corps ressuscite. Et nous constituons, nous travaillons le corps. Et nous ne disons pas assez cette réalité. Le corps spirituel. Le corps est spirituel. Et l'esprit est corporel. Jésus s'est quand même incarné. Hein? Voilà. Combien ? 5 minutes. Bah, c'est... Tant mieux, parce que je voulais parler de la loi naturelle, mais on a déjà tellement parlé que je n'ai pas besoin. Non, mais c'est sérieux, hein, la loi naturelle, on ne rigole pas. Hein. Mais moi, je voudrais dire ceci. C'est quand même étonnant. Hein, parce que j'ai écouté et j'étais très intéressé par notamment ce que Waltraud a dit. J'ai pris des notes tout le temps. Et en fait, on se dit parfois, mais qu'est-ce qui fait que l'Église engage un coût d'énergie extraordinaire pour défendre cette loi naturelle contre tout le monde. Tout le temps, ça coûte beaucoup. Vous essayez une fois d'aller dans un groupe de gens, pas des chrétiens, mais disons un peu tout le monde, et vous essayez de défendre la loi naturelle. 3 quarts d'heure au moins, vous devez dire « ce n'est pas ça, c'est autre chose, c'est comme ceci, comme ceci, ceci ». Et c'est seulement les dernières 5 minutes, comme moi, que vous réussirez à dire, mais c'est pour cela qu'on garde ce concept. Par exemple, c'est pour montrer justement que quand nous parlons de nature, nous comprenons beaucoup, beaucoup, toujours en même temps. Nature, liberté, personne, histoire, corps, surtout universalité. L'Église, c'est ça ce qu'elle veut. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'éclatement, le pluralisme. Plus personne ne comprend, plus c'est quand même l'individualisme aujourd'hui, et souvent matérialiste. Eh bien, la loi naturelle fait le pari de dire « nous voulons dire quelque chose qui concerne tous les hommes ». C'est la loi de la nature, au quel sens ? C'est la loi de ce qu'est l'homme. Et nous croyons qu'il y a quelque chose de commun à tous les hommes. Ça vaut la peine. Peut-être qu'on pourrait trouver un autre mot, mais enfin, c'est ça, l'universalité qui nous manque. Nous sommes un maintenant, je vous l'ai dit au début, c'est pour ça que j'ai un peu glosé là-dessus, mais c'est ça, l'universalité. Figurez-vous quand même, au XVIe siècle, les grands catholiques, le roi catholique d'Espagne, sont allés en Amérique latine et on a discuté, ils n'ont pas la même langue que nous, ils n'ont pas la même religion que nous. Etc., etc. Donc, ce ne sont pas des hommes. Et je crois, notamment, une des raisons stratégiques de l'Église pour maintenir ce mot « loi naturelle », elle veut dire par là, tout le monde participe à la même humanité. Ah, pas facile, hein, parce que c'est le début de la vie, le fin de la vie, c'est le type qui m'a tué ou qui a tué mes parents, c'est ceci et tout ceci. Eh bien, non, tout le monde, nous sommes une unité. Et alors on dit, écoutez, ce n'est pas seulement pour 15 jours, c'est l'humanité, c'est ça. Moi, je pense, entre nous, que tout ça ne tiendrait pas sans que derrière, il y ait le Christ lui-même, qui est mort pour tous. Et quand nous parlons de nature, je me demande parfois si l'Église ne maintient pas pour la christologie. Mais enfin, laissons tomber ça. Mais je veux dire, globalement, quand même, la nature humaine, c'est nous tous. C'est appartenir à la même humanité. Caïn a tué son frère. Même nature. Donc, il me semble que nous payons un prix cher, mais il y a des choses à défendre. Hein? C'est ces lignes-là que nous voulons défendre. Maintenant, dans certains auditoires, il vaut mieux pas passer par la loi naturelle, mais rappelons-nous que ce concept, c'est ça ce qu'il veut défendre. Stabilité, universalité, et je dirais aussi, mais ça, je dirais, le concept a dû s'enrichir. Hein. On a dû quand même rectifier. Hein. On a ajouté, on a, etc., nature et liberté, nature et histoire, nature, culture, etc. Mais par exemple, nous disons, en vertu de la loi naturelle, les cultures ne sont pas des absolus. Il y a des droits humains qui dépassent les cultures. Gros problème, parce que beaucoup disent maintenant, les droits naturels, les droits humains sont des droits européens. Non. Il y a quelque chose, les cultures, comme dit le pape, les cultures sont aussi face à la vérité. Et la vérité est aussi dans la nature de l'homme. Bien. Écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire encore en faveur de cette loi naturelle, notamment mon ami, mon bon ami, que beaucoup d'entre vous connaissent, Xavier Dijon, professeur de droit. Il se bataille contre presque tout le monde pour dire le droit, c'est ce qu'il y a de plus important. Ça mène partout, aussi dans le pire, hein, mais enfin, ça mène partout. Donc, le droit n'est pas fondé en lui-même. Ce n'est pas parce que M. Hollande veut faire ceci, Mme Taubira, etc. Mais le droit est fondé sur deux choses, sur des forces, ça c'est Marx, mais aussi sur des valeurs. Ça, c'est plutôt, par exemple, Max Weber. Mais, en fait, tout le monde. Mais enfin, disons, en gros, il y a des enjeux formidables de dire, non, le droit, c'est le grand, pour le moment, c'est la grande période de l'autonomie. Vous dites quelque part, je suis autonome, et vous avez tout l'auditoire dans votre poche. Autonome. Individualiste et tout ça. Mais non, non, non. Et je crois qu'on a dit de belles choses sur la loi naturelle, que l'hétéronomie n'est pas nécessairement contre l'homme. C'est-à-dire il y a toute la question de la relation du don de Dieu qui se donne à nous et tout ça. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'à travers cette visée du droit, de la loi naturelle, il y a aussi des enjeux fondamentaux. On va dire le droit n'est pas autonome. Il défend, et d'ailleurs c'est idiot, parce que nous savons bien les groupes de pression, etc., qui influencent la loi, et les valeurs naturellement. Et donc dire, c'est simplement le monsieur qui est à la tête qui décide, c'est assez ridicule. Enfin, donc, tout ceci, je dois sauter les pages. Hein. Alors, j'avais promis, 2 secondes encore ? 2 secondes. 2 secondes. Alors, je vais simplement l'énumérer. C'est-à-dire que je voulais vous proposer des lignes de pensée et des lignes, je dirais, pour suivre dans la vie. Parce que vous aurez des moments où, comme quelqu'un vient de me dire, où Dieu ne parle pas tellement. Et il y avait des périodes dans l'Ancien Testament comme ça, les psalmistes étaient vraiment furieux que Dieu ne parle pas plus. Ah ben, mais peut-être c'est parce qu'il nous respecte. On dit, mais je te confie, vas-y. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, moi, je trouve personnellement un livre qui m'a encouragé par rapport à la problématique qui est donc la nôtre, écologie et donc loi naturelle, mais loi naturelle dans le monde où les choses sont devenues rares, où nous sommes beaucoup, etc., où il faut partager, voir ses limites. Eh bien, ce livre est un beau livre et qui s'appelle, avec un titre très intéressant, « L'abondance frugale ». un beau livre de Foucault, Jean-Baptiste de Foucault. Par quoi, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, le monde a trop vécu pour gagner, pour faire du fric, c'est-à-dire premier niveau économique basique. Je gagne du fric. Deuxièmement, il y a, dit-il, un manque formidable de la convivialité. Et vous devez faire un équilibre dans votre vie. Est-ce que je suis prêt à gagner moins, mais avoir plus de temps dans ma famille? Par exemple, c'est simpliste, hein, simpliste. Mais je veux dire, est-ce que vous comprenez ça? Nous devons faire des équilibres dans l'option même de nos sociétés. Regardons, par exemple, la bagarre actuellement sur le travail le dimanche. Hein, c'est aussi pratique que ça, mais enfin, vous voyez. Et disons, ça c'est donc très beau. Il dit qu'il y a un troisième niveau que nous ne pratiquons pas assez, et il est chrétien, mais il ne dit pas « vous devez croire en Jésus-Christ hein, », mais il dit « il faut cultiver la spiritualité ». C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la convivialité, mais c'est, je dirais, l'intériorité. Là, nous avions de gros bagarres, hein, parce que je connais des gens qui sont allés dans un séminaire dernièrement pour apprendre le coaching. Coaching, vous connaissez, hein? Eh bien, finalement, ils ont découvert qu'ils étaient dans un club de New Age et qu'ils leur faisaient des méditations, je ne sais pas quoi, enfin. Voilà. Alors, donc, faisons attention. Troisièmement, je voulais dire ceci, c'est que nous devons prendre le temps comme chrétiens de nous décider personnellement. Il faut réformer le monde, mais c'est vrai. Mais pour le moment, je ne suis pas président de la Commission européenne. Il a ses soucis, mais moi, qu'est-ce que Jésus me demande? Et il me demande quelque chose dans ce monde-ci. J'ai un ami qui m'a dit, beaucoup de problèmes, il a quitté son travail parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'on faisait. Mais il m'a dit, j'ai comme règle, je pense que j'ai partout un espace de liberté. Et je ne dois pas céder à l'impuissance ni à la toute-puissance parce que l'être humain fini que je suis est libre. C'est ça qu'il faut penser. Nous sommes limités, finitude, nous allons mourir, mais nous sommes libres et en plus, figurez-vous, bonne nouvelle, nous ressusciterons. Ah, c'est fondamental. Oui, j'avais beaucoup de choses importantes pour la pensée, mais enfin, c'est moins important. J'aurais dit notamment, il faut penser le corps, l'esprit. À mon avis aussi, l'Église, par exemple, la loi naturelle, et c'est très important, parce qu'en disant, il y a une loi naturelle, l'Église veut dire, je fais confiance à la raison. Vous n'avez pas besoin de devenir des fidéistes. Je suis d'accord pour engager le débat avec la raison. Hein? Les musulmans ont des difficultés. Non, il y a foi et raison. Et la loi naturelle, quand l'Église la répète, on pourrait faire autrement parfois, etc. Donc là, mais je veux dire, l'Église croit dans la raison, mais elle nous demande donc d'être compétents aussi, de pouvoir discuter. Hein? Aller à la TV, hein, par exemple. Ou venir ici, quoi. Hein? Voilà. Non, mais je veux dire, tout ça est important. Je vois que Waltraud me regarde tout le temps avec inquiétude. En gros, je vais me taire parce que je voulais dire encore juste, et l'Église. Et l'Église, voilà.